Donc ça, on va voir ce que ça donne. Donc si vous les avez, ne fumez pas. Ils seraient aussi liés à la schizophrénie et à la dépression RSS. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une nouvelle étude hein, sur les génomes. Bref, qui aurait identifié des gènes dont les porteurs seraient plus exposés à une dépendance au cannabis, améliorant ainsi les procédures de diagnostic. Alors, est-ce que c'est bien sûr... Il y a des grands spécialistes qui parlent. En tout cas, j'ai retenu deux choses. Hein. C'est que c'est... Donc, que dit ce scientifique, donc Hervé Seyss. À mon sens, cette étude est loin d'arriver à une conclusion très claire. Hein. Donc, il n'y aurait pas de gène vraiment de prédestination au cannabis, hein, c'est surtout ce qu'il dit. L'étude initiale réalisée par ce laboratoire a effectivement identifié trois régions du génome dont certaines variantes se trouvaient plus fréquemment chez des patients dépendants que chez d'autres patients. Mais d'une part, l'une de ces trois régions n'a pas été confirmée par la vérification que le laboratoire a menée sur une nouvelle cohorte. D'autre part, les deux autres régions génomiques confirmées par la vérification se trouvent dans un endroit du génome dont la fonction éventuelle n'est pas connue. L'une de ces deux régions ne chevauche aucun gène connu et se trouve donc dans une partie de gène qui semble non fonctionnelle. Et le gène qu'il héberge est lui-même très mal connu. Donc, s'il est confirmé que ces deux régions ont un rôle causal dans la dépendance au cannabis, on ne saurait pas encore expliquer comment. Voilà. En clair, on ne sait pas grand-chose.
Oui, on ne sait pas grand-chose, mais ce que tu aurais pu dire, c'est que par contre, ce qu'on sait, et c'est toujours le cas, c'est que dans Atlantico.fr, on lit toujours des trucs incroyables. Mais souvent, il n'y a rien. Ils savent faire des titres pour leurs articles. Et il faut rappeler aux auditeurs et auditrices que c'est dans Atlantico que M. Jean Constantin peut dire à peu près tout ce qu'il veut, toutes les bêtises qu'il veut proférer sur le cannabis. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de journaux, même sur Internet, qui donnent la parole à Jean Constantin. Mais voilà. Là, dans Atlantico, on lui la donne toujours. Et ce n'est pas étonnant que du coup, on retrouve ce genre d'article sur Atlantico.fr, où quand on commence à lire l'article, on a l'impression qu'ils ont tout découvert. En fait, ils n'en savent rien, quoi.
Voilà.
Bien résumé.
C'est bien ça. Justement, j'avais souligné un autre article qui est assez clair là-dessus, pour bien dire qu'ils n'en savent rien. Donc, plus généralement, qu'apporte la recherche génétique dans la compréhension des addictions ? Donc, pour le moment, il faut être honnête, pas grand-chose. Le cas dont nous parlons ici sur la dépendance au cannabis est assez illustratif. Sur les trois régions candidates identifiées initialement, une n'a pas été confirmée, une tombe en dehors de tout gène connu, et la dernière tombe dans une partie apparemment non fonctionnelle d'un gène déjà très mal connu au départ. Difficile d'en tirer des informations très utiles pour mieux comprendre les addictions.
Alors que le titre, c'est « Des scientifiques découvrent les gènes de l'addiction au cannabis hein. ».
Oui,
ça c'est le titre, et en fait dans l'article, on apprend qu'en fait non.
Bah, on les a, s'ils existent, on les a découverts, mais c'est pas sûr.
Mais on sait pas où ils sont.
Et on sait pas vraiment si.
C'est pas sérieux.
À quoi ça sert.
C'est
voilà.
Pas bien sérieux. Musique.
Musique. Musique. Pourquoi pas.
Bah, je sais pas. Si t'avais autre chose à dire en introduction de.
Non. Je crois que c'est pas mal. En effet.
Allez, voilà. Tout
on
de
va
suite.
Partir là-dessus. Je sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave.
On le saura en écoutant.
Rien ne presse.
Ouais, c'est à nous, c'est à nous. Revoilà, Cannabis Circus. Et donc, on vient de s'écouter Katmandou Express avec Stella. Voilà, c'est des disques qui viennent. Bah, la numéro 2 de la compile.
De la compile ?
Un double zéro.
Voilà, non, mais la compilation du double zéro, il faut le dire. Avant de partir un peu plus dans l'actu, juste pour vous rappeler quelques petites infos sur le fait que le cirque était au salon Technigro ce week-end à l'espace double mixte. Voilà, c'était sympa, sauf que vraiment il n'y avait pas grand monde, c'est un peu dommage. Il y avait beaucoup moins de monde que l'année dernière, où déjà c'était pas la grosse foule, mais là cette année c'était vraiment petitement peuplé, c'est vraiment dommage. Sinon il y avait une soirée Dub Sound System à la salle des fêtes de Caluire, auquel nous étions également pour informer le bon peuple du déroulement des actions prochaines, c'est-à-dire la marche mondiale du cannabis samedi 7 mai prochain, 7 mai 2016, rassemblement 14h30 place Carnot pour un départ à partir de 15h en direction de la place des Terreaux. Donc voilà, marche mondiale du cannabis, on va en reparler tout le long du mois d'avril. Et puis il y aura aussi l'appel du 18 juin, bon, ça c'est dans un petit peu plus longtemps, le 18 juin, le samedi 18 juin, 18h, au Parc des Berges, dans le 7e arrondissement. Et voilà, et encore une fois, vous rappelez que c'est le Cirque Lyon, le collectif d'information et de recherche cannabique, qui vous présente cette émission, l'émission Cannabis Circus, tous les lundis soirs de 21h à 22h sur Radio Canu. Le cirque que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07, par mail cirque-lyon@no-log.org. Vous pouvez également nous écrire Cirque Lyon, boîte postale 93 043 69 605, Villeurbanne, Cedex. Voilà. Et utile de vous rappeler que voilà, il faut être présent en nombre le samedi 7 mai à partir de 14h30, place Carnot. Il faudrait quand même qu'on fasse meilleure figure que les années précédentes où on était entre 70 et 90, 100 personnes. Quand même savoir qu'à Berlin, ils étaient 10 ou 15 000. À Buenos Aires et en Brésil, à Rio, ils ont été jusqu'à 150, 200 000 à manifester. Voilà, nous, on est 60, 70, ça fait peine, vraiment peine, quoi. Donc voilà, c'est une bonne occasion pour se mobiliser, pour se montrer, pour...
On amalgame en arrivant, voilà. On est plus, la manif à des moments compte plus de 100 personnes.
Non, pas l'année dernière, là non, je te jure que
pas l'année dernière, peut-être.
Et même l'année dernière, même il y a 2 ans non plus, l'année où on a été le plus nombreux c'était en 2012, on a peut-être été 150 au maximum à un moment, voilà, mais non, c'est... Enfin, en tout cas, même si on est 100, c'est même 150, c'est vraiment ridicule par rapport même aux 10 000 qui se réunissent à Berlin. Et encore 10 000, c'est même pas énorme par rapport au ce qu'on voit en Amérique latine, quoi.
Oui.
Donc voilà, marche mondiale du cannabis, il faut venir et c'est le moment. Le fer est chaud, il faut le battre maintenant. En introduction de cette émission, on a parlé on va commencer là-dessus, hein, je pense, de ce communiqué de presse de la plateforme internationale de la société civile, puisque à partir du 19 avril, à New York, se tient l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui est en fait une session extraordinaire sur le problème mondial des drogues, problème mondial dans le monde donc, et... Donc cette assemblée générale, durant cette assemblée générale, bah, il va y avoir des participants du cirque qui vont être là-bas, mais il y aura aussi des gens qui viendront d'Assud, de Aide, je crois, principe actif me semble-t-il, et tout ça coordonné par l'International Drug Policy Consortium, l'IDPC. Toutes ces infos, vous pouvez bien sûr les retrouver sur le site internet du Cirque Lyon. Voilà, un peu pour les infos. Je vous propose de lire ce communiqué de presse, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu y vois un inconvénient.
Ça va être un peu long, peut-être, non ?
Oh, je vais le lire vite. Donc, l'Assemblée générale de l'ONU va se réunir du 19 au 21 avril, donc pour cette session extraordinaire sur le problème mondial des drogues. Les négociations préparatoires à l'événement se sont terminées à Vienne au mois de mars. Elles ont largement porté sur l'interprétation des conventions internationales encadrant la politique des drogues et sur leur adéquation aux problématiques des pays membres, narcotrafic, surpopulation carcérale, décès, accès au traitement, développement. L'enjeu principal a été de faire reconnaître la santé à la même place que la sanction dans une approche équilibrée qui permette une interprétation plus souple des conventions. Dans cette approche, la réduction des risques, harm reduction en anglais, a joué un rôle décisif pour aller au-delà de l'opposition santé-répression-malade-délinquant pour promouvoir une vision pragmatique du phénomène des drogues. La stratégie des pays qui soutiennent cette approche, dont la France et de l'Union européenne, a consisté à mettre en avant le soin au sens de care et non seulement de cure dans le texte final adopté à l'UNGAS dans 15 jours. Après des jours de négociations entre délégations officielles, ce texte vient d'être achevé. La société civile française salue les éléments positifs issus des négociations. Il marque une avancée certaine par rapport à l'UNGAS 98 qui s'était conclu sur l'improbable slogan « Un monde sans drogue, nous pouvons le faire ». La plateforme se félicite des avancées suivantes. Le document inclut pour la première fois un chapitre entier consacré à la santé. Il inclut des principales mesures sanitaires de réduction des risques, matériel d'injection, traitements médicaux, naloxone, y compris en prison. Il met en avant la nécessité de prendre en compte les spécificités de genre et de culture des comportements d'usage et des risques qui y sont liés. Il mentionne les possibilités d'alternatives à l'incarcération et à la proportionnalité des peines.
Ça, c'était les quatre points sur lesquels on avance.
Et voilà. Voilà. Mais c'est pas fini, il y en a tout un tas d'autres, enfin quatre en l'occurrence aussi, où là c'est pas simple et ça avance pas trop. Ceci étant, nous estimons que le document reste insuffisant en l'état pour pouvoir réinterpréter les conventions sous un nouveau jour. Avant tout, le document ne revient pas sur l'interdiction de la peine de mort, encore mise en œuvre pour les délits et crimes liés aux drogues dans un trop grand nombre de pays. Les gouvernements font encore trop primer les conventions internationales qui ne les remettent pas en question. Malgré leurs insuffisances, les conventions sont confirmées comme la seule pierre angulaire de la politique mondiale en la matière. La mention « en cohérence avec la législation internationale » revient plus de 25 fois dans le document.
Voilà. Troisième point.
Si le texte en détaille les mesures, on peut regretter qu'il ne nomme pas expressément le terme « harm reduction », réduction des risques. Ah, il en parle, il le détaille, mais il n'en parle pas. Et enfin, quatrième point, la dépénalisation de l'usage n'est pas mentionnée. Eh oui. Elle paraît pourtant nécessaire à la cohérence d'une politique des drogues équilibrée.
Ouais, donc ça, c'est les quatre points pour lesquels le groupe trouve que c'est insuffisant.
Et ça l'est, en effet.
Et ça l'est, tout à fait, bien sûr.
Voilà. Enfin, malgré une volonté marquée par certaines délégations officielles de travailler avec les ONG, les débats préparatoires à l'UNGAS ont été menés dans l'opacité. J'ai envie de dire comme d'habitude. Nous regrettons, comme plus de 200 associations du monde entier, le manque d'inclusion de la société civile dans ces travaux, tout comme le refus de mener une évaluation objective de l'application des conventions pour 2019. En se passant de l'expertise des acteurs de terrain, des consommateurs de produits psychoactifs et des chercheurs, il est à craindre que cette session de l'Assemblée générale onusienne perde largement en acuité pour mener une politique efficace en matière de drogue. La société civile française appelle donc les délégations officielles et les ONG à s'engager plus activement encore, et ce, dès la session de cette année. Pour finir donc, nous ne voulons pas manquer l'occasion en 2019 de promouvoir un changement de paradigme pour sortir d'une guerre aux drogues dévastatrice, comme le réclament les pays à l'initiative de cette UNGAS. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas gagné, hein, on le voit bien. Tout se jouera, à mon avis, d'abord en 2019, mais il faut bien préparer cette session extraordinaire, là, dans une semaine.
Oui.
Voilà. Mais c'est pas gagné.
Ah non, loin de là. Voilà,
parce que sur le point, là où on nous dit qu'effectivement, on s'est passé de l'expertise des acteurs de terrain, des consommateurs, et aussi des chercheurs qui travaillent, je trouve ça vraiment fort de café, quoi.
Ouais.
Mais il faut pas être surpris, malheureusement.
Voilà. Allez, comme on t'a parlé longtemps, à mettre un peu de musique.
merde. Ah pardon. Hop.
Et voilà, et ça c'était les fils de Topu.
Waouh, ça remue bien, sympa ça.
Ouais, ça rappelle des souvenirs quoi. C'est pas tout neuf, hein, comme toujours. Hein.
Ah mais c'est toujours très bon.
Et...
Bon, allez, on repart un peu dans notre actu. On a déjà consommé pas mal de temps juste avant de partir vraiment dans l'actu. Je voulais vous rappeler une chose très très importante. Deux choses même très importantes dont on ne parle quasiment jamais, enfin surtout une qu'on a, je crois à mon avis, jamais parlé. Donc voilà, sur le site internet du Cirque Lyon, il y a la télé du cirque, le Cirque TV. Et il y a plein de vidéos super intéressantes, des condensés de reportages, voilà, sur les drogues, sur le cannabis, c'est super intéressant. Donc Cirque TV, c'est sur le site internet du Cirque Lyon.
Une vidéothèque donc.
Ouais, une vidéothèque qui est régulièrement... augmentée, mise à jour par des une personne du cirque voilà qui s'en occupe super bien et qui ira d'ailleurs à New York la semaine prochaine. Faut quand même lui rendre un petit hommage. Il s'appelle Cachou, voilà. Sinon, deuxième chose très importante. Actuellement circulent 3 pétitions demandant un changement de politique sur le cannabis et les drogues. Selon celles et ceux qui lancent la pétition. Vous pouvez également retrouver ces 3 pétitions à signer sur le Cirque Lyon, le site internet du Cirque Lyon. Vous pouvez retrouver ça dans la partie info importante, mais aussi dans la partie nouvelle, avec 2 communiqués de presse voilà, qui parlent de ces pétitions. Une pétition est donc lancée par qui ? Par le Cirque, hein, qui relance en fait l'appel du 18 juin. Une autre pétition est lancée par un duo de chercheurs, Emma Vivorka et puis je me rappelle plus l'autre scientifique qui lance une pétition pour adressée directement au Premier ministre demandant un changement de politique sur les drogues. Je crois que c'est légaliser les drogues, une mesure de salut public. Mmh. Et enfin, une troisième pétition est lancée par l'un des signataires du présent communiqué de presse dont on vient de parler tout à l'heure, la Fondation Antonin Artaud. Pour une approche humaine sur les drogues et l'usage des drogues, un truc comme ça. Voilà, donc 3 pétitions actuellement qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Toutes, on peut les trouver sur change.org. Mais sur le site Internet du Cirque Lyon, on peut également trouver ces pétitions. Ce qui est bien, c'est de signer les 3. Comme ça au moins.
Tant qu'à faire. Hein.
C'est clair. Voilà. Allez, maintenant, on part dans l'actu. Il nous reste qu'une demi-heure. On a pris beaucoup de temps dans cette première demi-heure, mais c'était quand même important. J'ai beaucoup parlé. Donc,
À part, moi, je dirais, là, on va passer très vite sur l'actu vraiment physique, parce que c'est pas très intéressant de parler des politiques. Hein. Voilà, on avait Philippe Goujon, donc ça c'était dans le RTL. Qui est député maire dans le 15e arrondissement de Paris. Alors lui, il est hors de question.
C'est pour ça que j'ai mis cet article, c'est pour qu'on se moque un peu de lui, quoi.
D'accord.
Vu ce qu'il dit, j'aime bien quand même parler de la dépénalisation, de changer les lois pour le cannabis. Il dit quand même, c'est pas parce que la police et la justice sont en échec à Marseille qu'il faut faire et dire n'importe quoi. Voilà. Comme si lui, il disait pas n'importe quoi. Il dit comme ça quand même, il ose, hein. Enfin, je trouve ça hallucinant, le gars il est à la rue quoi. Non mais c'est vrai quoi, si nous avons pu contenir le trafic en France, c'est parce que notre pays est basé sur l'interdiction, c'est l'élément principal de la prévention. Non mais, faut pas être un abruti quand même pour dire un truc. Non mais sérieux, c'est vrai, c'est factuel, enfin, je veux dire, il faut le dire à un moment quoi. Enfin la France c'est le pays, non mais sérieux, c'est vrai quoi. La France c'est le pays en Europe où on consomme le plus, hein, avec la loi la plus dure. Et ce gars-là, il ose nous dire que si aujourd'hui en France on a pu contenir l'histoire du trafic, c'est parce qu'on a une loi qui est basée sur l'interdit. Mais il a rien compris, ce gars-là, il comprend rien. Mais au moins, c'est hallucinant, quoi.
C'est ça, ce qui est bien, c'est au moins Mennucci passe pour quelqu'un d'intelligent.
Oui, en plus.
Quand il dit l'État doit légaliser le cannabis. C'est ça qui est bien rond.
Non mais, enfin, ce Goujon-là, qui reste dans sa mare, quoi, avec les autres poissons, quoi. Enfin. Et en plus, il se permet de tacler le nouveau Premier ministre italien, Justin Trudeau, qui a annoncé il y a quelques mois qu'il allait légaliser. Ils sont en train de le faire. Et il ose dire, attention, il fait fausse route. Voilà. Puis, autre chose qu'il dit, hallucinant, les cigarettes sont en vente libre et pourtant, il existe un commerce parallèle. L'interdit est indispensable. Oui, monsieur Goujon, sauf que je sais pas vous, peut-être que ce monsieur achète ses cigarettes au marché noir, parce que visiblement, il a l'air de dire que c'est comme ça que les Français s'approvisionnent en tabac. Non, monsieur Goujon, la plupart des Français, 99% des Français s'approvisionnent en tabac dans leur bureau de tabac, hein, qui vend des clopes de manière légale, avec des taxes et tout ça. Voilà, c'est tout quoi, je sais pas d'où il sort ça lui. Donc effectivement, oui, l'augmentation du prix des cigarettes a ravivé le marché parallèle des clopes quoi. Parce qu'il y a une augmentation des prix. Voilà, c'est pour ça. Donc il faut trouver un juste équilibre entre des prix pas trop élevés, mais quand même un peu pour pas que les consommateurs versent complètement dans le marché noir pour s'approvisionner, c'est tout. Bon, mais vraiment, lui... c'est pour ça que j'ai mis l'article, c'est pour qu'on rigole un peu quand même. Parce que, et pour en faire profiter nos auditeurs et auditrices. Ah, non, mais franchement, là... Ça vaut des points, ça déclaration. Voilà, bon, voilà. Bon, allez, c'est tout, on va passer.
Avec les Arocs, on apprend que Benucci persiste et signe. Pour lui, c'est l'État qui doit légaliser le cannabis. Hein. Donc, créer une filière, amener pas le détail, en assurer la distribution. Parce que pour lui, hein, c'est le seul moyen d'empêcher les violents règlements de compte, hein, pas seulement à Marseille. Là-dessus, je pense qu'il a raison. Et il dit, tant qu'un tel marché existera et demeurera dans l'illégalité, des groupes de malfaiteurs se battront pour le contrôler. Ça tombe sous le sens, Vaillant disait la même chose, plein d'autres l'ont déjà dit. Voilà.
Mais ça tombe pas sous le sens du Goujon.
Ça tombe pas sous le sens du Goujon.
Voilà. Voilà. Ni de la Morano d'ailleurs. Hein.
Ni de la Morano. Mais par contre, Mélenchon arrive à dire qu'il faudrait peut-être dépénaliser. C'est bien, il évolue lui aussi. Bon, bref, mais là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais
si, excuse-moi, je vais en profiter quand même. Citer Nadine Morano. On rigole deux fois quand même.
Je t'en prie.
Donc, Nadine Morano qui nous dit. Donc elle n'est pas favorable à la dépénalisation ni à la légalisation, sans doute. Et elle nous dit quand même c'est mal connaître comment les drogues fonctionnent. Madame Morano, elle connaît super bien comment les drogues fonctionnent. Hein, elle est shootée du matin au soir, hein, quand on lit ses déclarations. Je ne sais pas ce qu'elle prend, elle. Hein, du goujon, peut-être. Hein, elle sniffe du goujon. Voilà. Je ne sais pas. Enfin, non, mais bon. Allez, on va avancer.
Voilà. Après, donc, c'est Libération qui essaye un article qui rappelle un peu quelques petits faits. C'est légaliser le cannabis, mortel tabou. Donc,
écrit par pour moi un inconnu, Jonathan Boucher-Petersen. Je ne sais pas qui c'est. Chef de service France at Boucher-Petersen, 4 avril. Je ne sais pas qui c'est. Voilà.
Donc il rappelle qu'après après Patrick Minucci, il serait temps d'envisager sérieusement des solutions pertinentes. Donc il rappelle quand même que c'est devenu à gauche un tabou. Au début du quinquennat, le simple fait pour d'être ministre et de dire qu'on est pour la légalisation, c'était très très mal. Vincent Payan en a fait les frais déjà. Quand il a dit qu'un débat sur la dépénalisation du cannabis était légitime. Voilà, et puis sinon, bon, il rappelle que François Hollande, quand même, lui, il avait été très très mou pendant la campagne, hein, mais en tout cas, depuis qu'il est président, c'est quelque chose sur lequel il n'a pas bougé. Voilà, c'est la gauche est vraiment complexée là-dessus. Voilà.
Oui, à chaque fois que, enfin, la gauche pense qu'à chaque fois qu'ils font un mouvement dans le sens d'un assouplissement ou d'une meilleure compréhension du sujet, d'un assouplissement de la loi, hein, eh ben, ils ont peur de passer pour des laxistes.
Voilà, donc bien sûr, la seule chose pour eux, c'est la peur de ce procès-là, tout à fait.
Voilà. Donc, comme ils veulent pas passer pour des laxistes, donc comme ils veulent pas en fait faire une politique de gauche. Eh bien, et que finalement, visiblement, on s'en rend compte là, au cours de ce quinquennat, qu'ils ont plus, ça les intéresse plus d'avoir les voix de la droite, ou de l'extrême droite, on se demande même. Peut-être que, au moins, la droite, elle, qui fait de la droite, voudra bien des voix de gauche, à un moment, pour faire ça. C'est toujours un peu ce qu'on se demande, hein. Parce que, encore une fois, on rappelle, hein, que quand même, les avancées en matière de réduction des risques en France, ont été faites par la droite deux fois. Une fois Michel Barzac entre 86 et 88, une deuxième fois Simone Veil dans le deuxième gouvernement de cohabitation entre 93 et 95. Deux fois la droite. jamais le PS, jamais, jamais.
En tout cas, Jonathan Boucher-Peterson continue son truc. Donc, jusqu'à maintenant, la gauche ne bouge pas, hein, elle ne veut rien faire sur le cannabis, hein, c'est ce qu'on dit. Ils sont sur la posture mystérandienne, hein, si on parle de la drogue.
Il faut
hurler avec les loups, sinon on se tait. Donc là-dessus, ils évoluent pas, ils sont frileux, ils ont peur d'être traités de laxistes. Et donc lui, il dit, le problème, c'est que c'est pas un signal de faiblesse. Le débat est souvent mal posé. Et il dit, si on en reste à la seule question de la dépénalisation, qui prend acte de la consommation, on passe à côté de l'essentiel. Car seule l'arme de la légalisation peut permettre de s'attaquer au trafic. Il rajoute, en l'étatisant. Pourquoi pas ? Il rejoint Minucci là-dessus. Hein. Bref, autrement dit, surtout la légalisation, donc autrement dit, en coupant l'herbe sous le pied des réseaux, au-delà de la manne financière ici de la commercialisation officielle et donc de la taxation de la consommation d'herbes et de résines, les exemples ne manquent pas, notamment dans plusieurs États américains, l'enjeu est d'autant celui de la sécurité, alors que de nombreux règlements de compte meurtriers sont liés au trafic de cannabis et que la santé publique, alors que la qualité et la puissance des produits ne sont en l'état pas encadrés. Oui, la phrase était un petit peu compliquée, je m'en sortais plus. Bref, ça me manque, il faut une légalisation encadrée, forcément, puisqu'on fait une légalisation, on fait des lois, on interdit au moins aux mineurs et on fait des règles pour le vendre, avec l'État ou par d'autres moyens. Voilà un petit peu moi ce que j'ai trouvé de bien dans cet article de Libération.
Par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire, hein, c'est plutôt pas mal, quoi.
C'était pas mal.
Même si ce monsieur considère que le contexte n'est plus celui, avant tout folklorique et culturel, de l'appel du 18 juin. Honnêtement, je vois pas trop ce qu'il veut dire, ce monsieur, mais bon, à part ça, l'article est quand même intéressant.
Voilà. Ensuite, on tombe sur un article assez intéressant de Flore Thomasset. Par contre, c'est assez étonnant. On voit rarement la croix qui apparaît dans nos trucs. Mais bon, c'est un journal. Hein. Les limites de répression des trafics de drogue. Donc c'est une étude qui a été faite par l'ONDRP, c'est-à-dire par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
L'article est très intéressant. On a des bons chiffres.
Donc c'est l'ombre. C'est bien de sortir ça. Donc ils ont étudié les choses sur 20 ans. Donc depuis 1990, donc c'est un observatoire, et donc le rapport vient de sortir.
Et il publie des chiffres qui sont les chiffres qu'on communique régulièrement dans nos manifestations et sur notre acte depuis des années. Hein.
Voilà, donc
ça c'est pas mal quoi.
En 20 ans, de 90 à 2010, le nombre d'affaires traitées chaque année par les forces de l'ordre en la matière a été multiplié par 6, passant de 20 000 à 117 000. En tout, près de 1,4 million de personnes ont été interpellées dans des affaires de stupéfiants sur l'ensemble de la période. Donc enfin, en 20 ans, ça fait 2% de la population qui a été arrêtée pour ça.
Ce qui est énorme.
C'est énorme. Des chiffres impressionnants qui reflètent la mobilisation des services de police et des unités de gendarmerie, souligne l'étude. Mais qui cachent des réalités très contrastées. D'abord parce que 70 à 90% des arrestations concernent de l'usage simple de drogue et non de leur trafic. L'étude explique, hein, ce qu'on dit d'ailleurs depuis longtemps, c'est que c'est l'effet...
L'effet
du chiffre.
La politique du chiffre et la rentabilité, la prime au chiffre.
Donc la répression du trafic est devenue très compliquée car elle nécessite des enquêtes longues internationales avec des moyens technologiques comme les écoutes qui sont difficiles à mettre en place, commente quelqu'un du syndicat de la sécurité intérieure. Donc ce qui se passe, en gros, donc ils ont intérêt à faire beaucoup de dossiers plus courts que d'en faire des gros moins nombreux. D'autant plus que les enquêtes sur le trafic peuvent ne pas aboutir. Donc mettre une équipe sur un réseau pendant 6 mois pour que ça ne donne rien est un choix difficile.
Bah oui, statistiquement, ça risque de pas être rentable. Donc, c'est pas très incitatif.
La deuxième chose que souligne l'étude, c'est que dans toutes ces arrestations, dans tout ce qui a été
pénalement et policièrement.
Ce qui a été traité policièrement
et pas pénal, pas
voilà, justement, juridiquement. Ouais. À peine 7 sur 10 ne l'ont été qu'une seule fois en 20 ans. C'est bien ça. Oui.
7 personnes arrêtées sur 10 ne l'ont été qu'une seule fois en 20 ans. Voilà. Alors, effectivement, on pourrait penser que les personnes interpellées ont par la suite changé de comportement, et ce qui fait que donc on les retrouve pas après dans les arrestations à venir, mais aussi peut-être plus probablement que la répression est finalement extrêmement ponctuelle et donc très limitée pour les interpeller. Mmh. Voilà, c'est hop, une fois comme ça, et peut-être plus jamais. Et avec pas de suite en plus.
Tout à voilà. fait.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais des suites. Voilà. Alors là, c'est pas très abordé, par contre, dans l'article, parce que les suites, en général, elles concernent toujours les mêmes. Faut le dire. Là, c'est pas dit dans l'article.
Ouais, donc eux, ils seraient plus pour une contraventionnalisation. Et ils finissent la dernière chose qui est intéressante dans l'étude, c'est qu'ils constatent une augmentation des drogues de synthèse. Donc, mais ça, on en avait déjà parlé aussi. De 400 affaires annuelles en moyenne en début 90, on passe à 4500 sur la fin de la période observée. Donc voilà, mais ce qui est le plus flagrant, c'est justement les drogues de synthèse qui sont passées d'une centaine dans les années 90 à 1400 dans les années 2000. Donc voilà. Ce qu'on pouvait dire là-dessus. On s'en fait encore une ou...
Allez, encore une, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
Ouais, et puis celle-là, elle fait bien la liaison. Allez. Elle est bien dans le même style. Elle est bien dans le même style. Je crois que celle d'après aussi, mais bon... Elles sont toutes pareilles.
Vas-y.
Ou on fait une petite pause.
Ah non, encore un petit coup.
Ouais, encore un petit coup. Allez, Ouest-France, les Nations Unies renvoient leur politique de lutte contre les drogues. Donc c'est un article qui rappelle, il fait vraiment le condensé, il rappelle tout. Hein. Donc on va avoir l'ONU qui va se réunir là à New York le 19 au 21 avril.
Voilà, donc en relation avec le communiqué de presse qu'on vous lisait en début d'émission. Enfin, tout à l'heure, pas en début, mais en milieu d'émission plutôt.
Tout à fait. Cet article rappelle qu'un demi-siècle de lutte pour le contrôle des stupéfiants, hein, le premier traité international de lutte contre les drogues date de 1961, peut-être même avant, mais bon, c'est peut-être le premier international en effet. Et donc, jusqu'en 2008, l'ONU avait réaffirmé la guerre à la drogue, et ils avaient même affiché leur volonté politique d'éradiquer les trafics de stupéfiants sur la planète et l'usage des drogues. Voilà.
En 2019. Enfin, donc pour la prochaine session, dans 3 ans. Et là, on est donc en 2016. Et...
Voilà. À 3 ans de l'objectif, le bilan n'est pas brillant.
Voire, il est complètement nul.
C'est un échec complet, assure Marine Ougier.
De l'IDPC, donc de l'International Drug Policy Consortium, ouais.
Voilà, donc, c'est donné. Donc, en tout cas, l'IDPC a compilé plein de données nationales et il estime que cette politique répressive a coûté plus de 100 milliards de dollars aux contribuables à travers le monde. Donc, c'est pas mal. D'ailleurs, pour l'Europe, toujours d'après eux, c'est l'OFDT, rien que pour l'Europe, ça coûterait 24 milliards d'euros ce qu'on dépense pour essayer d'éradiquer les drogues. 24 milliards d'euros foutus en l'air en Europe, au moins. Donc. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Oui, la dernière chose, le Lancet aussi a critiqué cette guerre à la drogue en observant que non seulement elles ont échoué à réduire la consommation de drogue, mais elles ont aussi contribué à répandre le VIH et l'hépatite C par manque de prévention. Après, on part du côté des trafiquants, et là, on arrive vers Europol aussi. Dans l'Union européenne, c'est l'Europol qui a mis un lien évident entre le trafic des drogues, les passeurs et les finances du terrorisme. Donc, rien que pour cette raison, ça peut être aussi utile. D'ailleurs, il rappelle qu'au Mexique, 30 personnes par jour meurent dans les batailles rangées entre les cartels et la drogue et les forces gouvernementales. 30 personnes par jour, vous imaginez, c'est plus que tous les conflits hein, dont on parle tout le temps. Voilà, donc, il rappelle aussi, vous savez, vous avez tous entendu parler du dernier scandale là, avec le Panama.
Les Panama Papers.
Les Panama Papers, voilà. Et donc, dans ce cabinet d'avocats, il y avait quand même 24 gros barons de la drogue qui avaient des sociétés de blanchiment d'argent aussi. Donc, comme quoi, tout est mélangé quelque part, surtout l'argent.
Ouais. Puis on a su, en 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, si le système ne s'est pas complètement effondré, hein, on avait bien vu que, pourquoi ? Ben parce que l'argent frais, il sortait pas de nulle part, il sortait pas des poches je ne sais qui, quoi. Hein, l'argent frais qui a été injecté dans le système, il sortait des poches des certain nombre de gros trafiquants. Voilà. Donc l'argent n'a pas d'odeur. Voilà. Finalement.
Mais
ça marche bien.
Mais il a des poudres, des restes de poudre de cocaïne.
C'est vrai, ouais.
Donc on était dans l'article de Ouest France,
oui,
voilà.
Ça, oui.
Et juste pour finir, donc dans la fin de cet article, et on revient à l'Office des Nations Unies, donc l'ONUDC, qui reconnaît son échec. Hein, les efforts mondiaux de lutte contre la drogue ont eu une conséquence inattendue, dramatique. Un marché noir aux proportions gigantesques. Il est entre les mains de criminels qui peuvent déstabiliser des États, corrompre des fonctionnaires.
Merci à l'ONUDC d'enfin reconnaître ça. Parce que pendant des années, c'était impossible.
Oui, non, mais c'est... Voilà, ça fait quand même quelques années qu'on le dit, qu'un plein le disent. Voilà, et donc le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, appelle tous les pays participants à mener un débat large et ouvert qui considère toutes les options. Donc la société civile est très mobilisée et attend beaucoup de tables rondes prévues à Rome. Donc c'est le temps de dire hein, qu'on veut une légalisation à l'uruguayenne. Hein.
Ouais. Ouais, en effet.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut...
Moi, j'irai à la fin directement. Là, je voulais quand même rappeler, enfin dire, merci. Voilà ce que... Marie Nougier, donc porte-parole de l'IDPC, là... qui dit quand même, bon, alors, une inflexion du tout répressif est possible, ça, on est d'accord. Bon, apparemment, même l'IDPC, il pense quand même qu'il va y avoir cet infléchissement. Mais quand même, quid d'une dépénalisation mondiale de l'usage du cannabis ? Et Marie Nougier répond, c'est quand même, ce n'est même pas la peine d'y penser. Voilà, donc... Je dis ça parce qu'il y a certainement beaucoup de gens, y compris des gens même qui nous écoutent, qui sont très optimistes et qui pensent qu'enfin, avec cette conférence extraordinaire, on va acter la dépénalisation du cannabis. Voilà, non, pas cette fois, visiblement. C'est pas la peine d'y songer, donc, dit-elle. Et l'objectif, en tout cas, c'est pas ça d'abord, c'est d'abord les droits humains. Et que c'est là-dessus d'abord qu'il faut avancer. Et que peut-être, effectivement, c'est leur stratégie, j'ai l'impression... que si on avance d'abord sur le respect des droits humains, on fera reculer toutes les lois les plus répressives qui soient. Et donc forcément, au bout d'un moment, on en arrivera à une autre proposition législative. Voilà. Pour cet article de Ouest France, il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'on va se passer un petit morceau de musique quand même avant de terminer ?
Ouais.
Allez, à tout de suite.
L'armateur, en se drapant dans son honneur, ce bateau était dans ma famille, depuis la prise de la Bastille. Il était à peine rouillé, il pouvait encore naviguer, croyez-vous que s'il était foutu, l'affréteur en aurait voulu. Qui a coulé les Vicas ? Qui est coupable ? Qui est-ce qui paiera ? pas moi ni la fretteur, cette histoire c'est bien du malheur. Qui pouvait imaginer que ce bateau allait sombrer? Il m'avait fait bonne impression avec ses hélices en carton, et comme il nous coûtait pas cher, il plaisait bien aux actionnaires. Qui a coulé les vicars? Qui est coupable? Qui est-ce qui paiera? C'est pas nous, disent en colère dans leur bureau les actionnaires. Bien sûr on cherche à faire des sous en n'en dépensant pas du tout. Et ce bateau était très bien, ses rames, ses chaînes, ses galériens. S'il n'y a plus rien dans nos bas de laine, faudra voir chez le capitaine. Qui a coulé les ricains? Qui est coupable? Et qui est-ce qui paiera? C'est pas moi, dit le capitaine, ivre mort depuis 6 semaines. Je savais pas ce que je transportais, je croyais que c'était de la soupe au poulet. Quand j'ai vu qu'elle était toute noire, ça m'a semblé tellement bizarre. Aussitôt je l'ai signalé chez le ministre concerné. Qui a coulé les ricains? Qui est coupable? Qui est-ce qui paiera? C'est pas moi, s'écrit sinistre le ministre aux journalistes. Mes équipes ont trop de boulot, mettre un flic derrière chaque paquebot, c'est impossible. Et puis d'ailleurs, c'est pas une catastrophe majeure, mais je promets que ça n'arrivera plus si bien sûr je suis réélu. Qui a coulé les ricains? Qui est coupable? Et qui est-ce qui paiera? Pas nous, disent les électeurs en faisant tourner leur moteur. Nous, ce qu'on veut, c'est du pétrole pour faire avancer nos bagnoles. Nous mettez pas tout sur le dos, on sait bien que ce sont les oiseaux, ce sont eux qui ont salopé les plages et les roches de Vendée. Qui a coulé les ricains? Qui est coupable? Et qui est-ce qui paiera?
Voilà, qui a coulé les ricains, hein? Qui est-ce qui paiera? Ben, c'est pas nous.
On commence à le dire, oui. C'est pas eux.
C'est pas eux non plus, malheureusement. Ils gagnent toujours du fric. Alors, on va. Ouais, il nous reste 7 minutes. On va se dépêcher. Donc, deux petits articles. Il y en avait 3 à la base, mais on a sélectionné 2 qui nous viennent de go-met.com. Go-met, qui est un journal en ligne de la métropole marseillaise. Et qui publiait 2-3 même entretiens avec un sociologue, Jean Viard. Donc, lutte contre la drogue, nous sommes dans l'absurde. Et puis l'autre article, c'était lutte contre la drogue, la France sera-t-elle le dernier pays à bouger? Voilà. Alors, vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, Jean Viard, sociologue, hein, qui nous dit qu'il est quand même grand temps de revoir la politique française de lutte contre la drogue. Ce monsieur prône la légalisation encadrée du haschich. Voilà. Alors... c'est très intéressant, je vous invite quand même à lire cet entretien. Qu'est-ce qui nous dit, monsieur Jean Viard, que la demande de drogue et de cannabis ne diminue pas? Ce qui crée un marché, selon lui, c'est la demande. Et que tant que les jeunes des quartiers du Sud et les ex-sois, Aix-en-Provence, hein, ex-sois, des réseaux de toute la France du Sud s'approvisionnent dans les quartiers Nord, on peut faire tout ce qu'on veut, il y aura toujours un marché. Et en plus, aujourd'hui, avec la politique actuelle, je pense qu'on augmente la tension entre les bandes de dealers. Et une fois qu'on arrête un réseau, ben, c'est bien connu, il y en a un autre qui le remplace. Il y a donc une stratégie d'affrontement qui existe et qui ne marche pas pour éradiquer les soi-disant réseaux de trafic. Hein. Quand on regarde le seul type de meurtre qui augmente en France, ce sont les meurtres entre les jeunes. Et cette violence entre jeunes est très souvent liée au trafic de drogue. Tout cela, c'est un bilan totalement négatif. Et quand on regarde le nombre de policiers que l'on met sur ce dossier, le nombre de places de prison qu'on utilise et l'absence totale de lutte contre les désirs de consommation, on est quand même dans quelque chose d'absurde. D'autant que depuis un demi-siècle, la consommation augmente sans cesse en France. Voilà comment il commence avec tout ça. Ensuite, ce qu'il nous dit aussi qui est très intéressant, il nous dit qu'il y a aussi un problème de la société française qui refuse de faire une place à ces jeunes issus de l'immigration du Maghreb, qui pourtant continuent pour la plupart à faire des efforts pour tenter de s'intégrer. Il y a quand même des études qui montrent bien, notamment pour les filles, qui sont plutôt celles qui s'en sortent le mieux, qui s'intègrent le mieux. Du coup, bah, ces jeunes se battent pour survivre et dans leurs moyens de subsistance, il y a la drogue et il y a le djihad, nous dit-il. Ces deux imaginaires se retrouvent et font en plus appel au même savoir-faire, pour échapper à la police. C'est très intéressant. On fabrique des cultures de la contestation et qui ne sont pas en plus forcément des cultures d'une contestation constructive. Voilà. C'est ça qui est terrible.
Tout à fait. Voilà. Non, mais...
La société, quelque part, dirige ces jeunes vers ces voies-là. Et je dirais que c'est les voies de l'irrécupérable. Après, c'est triste, c'est vraiment triste. Alors lui, ce qu'il propose en fait, c'est de lutter contre l'offre. Voilà. Mais c'est vachement intéressant. On dit, voilà, on est une société des loisirs festives où toutes les pratiques de temps libre se multiplient. La consommation d'alcool, les rapports érotiques, la drogue, les fêtes, la culture, les cultes. C'est pas forcément négatif, hein, nous dit-il. Hein. Nous sommes dans une société qui a compris que la créativité est une donnée majeure et qu'elle ne se développe pas forcément durant le temps de travail. Le hors-temps, le hors-travail a pris le pas sur le travail. Il nous raconte qu'il en a discuté avec une ancienne patronne de France 2 et il lui a dit, voilà, quand est-ce qu'on fait une grande émission sur la mondialisation des vices ? Intéressant, hein, car dans la mondialisation, il y a aussi la mondialisation des vices, notamment en Méditerranée, où une partie de la région consomme de l'alcool et une autre du haschich. Voilà. Il dit tout ça me fait dire que on mène une bataille absurde qui relève des vieilles idées que la drogue est associée chez ceux qui nous gouvernent à mai 68 et donc à la perte des règles et des valeurs. Au fond, ces gens mènent une lutte réactionnaire. Ce n'est pas que je veuille généraliser la consommation de drogue, mais il faut constater que cette consommation est généralisée d'ores et déjà pour tous ceux qui le souhaitent. À Marseille, les jeunes la trouvent en 3 minutes. Moi, je ne sais pas où la trouver, j'en ai même jamais consommé.
Dit ce sociologue.
Voilà. Donc, que faire pour faire évoluer les mentalités de ceux qui animent la politique d'aujourd'hui ? Et là aussi, je trouve ça sympa.
Jean-Pierre répond, oui.
Ouais, à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, avec un responsable politique, il dit qu'il en a parlé une fois avec Manuel Valls et aussi avec l'ancien préfet de police. Et il répond ça. Il dit, à chaque fois que je leur en parle, on vous dit « Moi, je connais quelqu'un qui a été détruit par la drogue. » Voilà, c'est l'argument massu, quoi. Et Jean-Pierre dit « Mais moi aussi, je connais quelqu'un. Deux filles de ma famille ont été détruites par la drogue. Parmi mes enfants aussi, ce fut pour certains une question forte. Je sais donc comment la drogue est terrible. Mais c'est parce que je le sais que je dis qu'il faut arrêter de la laisser se développer avec un discours réactionnaire, inefficace et coûteux. Il faut aider la jeunesse à la consommer de manière raisonnable et si possible, à la trouver nulle. »
Pourquoi pas ?
Voilà. Pourquoi pas ? C'est quand même sacrément plus intéressant que les discours pourris qu'on entend... Notamment voilà. De la part du Goujon, quoi. Et de la Morano.
Tout à fait. Donc là, il continue, on va essayer très, très rapidement. Donc il rappelle ce qui se passe aux Pays-Bas, au Portugal, hein, où c'est plutôt pas mal. Où il y a des produits significatifs, hein, soit par la dépénalisation de l'usage, soit par un certain laxisme sur l'application de la loi, comme en Hollande. Chez nous, sous prétexte que c'est interdit, il n'y a aucune information. Et c'est là-dessus surtout, et c'est sans doute la raison pour laquelle les adolescents en France consomment le plus. Alors que c'est vrai que l'information est très très mal faite, hein. On ne dit pas assez souvent aux jeunes que de boire à 16 ans c'est pas bon, et que de boire et de fumer à 16 ans c'est pas bon. L'usage des drogues pour les cerveaux en formation, c'est ouais. Toujours nocif. Voilà, qu'est-ce qu'il continue de dire et c'est bien sûr encore plus dangereux que de fumer du haschich. Je crois que qu'on est à côté de la plaque, que tout le monde est en train de bouger et que la France, encore une fois, risque d'être le dernier des pays à évoluer. Et nous sommes devenus horriblement conservateurs sur de nombreux pays. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Faut sortir des généralités, de sortir de la jeunesse, le rapport avec les voyous, tout ça. Alors comment faire bouger les lignes cherche encore la journaliste. Et Jean-Vierre l'a dit un truc bien, je vais vous dire ce qui va faire bouger les lignes. Malheureusement, on a besoin des policiers aujourd'hui pour lutter contre les attentats, qu'il va falloir revoir la politique de lutte anti-H. Il y a des milliers de policiers qu'il va falloir enlever de cette lutte absurde, des place en prison à libérer. Du coup, la montée des attentats qui ne font que commencer va devenir prioritaire. Triste constat.
Voilà. Bon, il nous reste plus rien. Voilà. Ça va bientôt être chasseur de son.
Dernière question, est-ce que la société française est-elle prête pour légaliser le cannabis? Voilà, donc qu'est-ce qu'il dit
Bah lui, il dit que, mais bien sûr, il dit que la masse des consommateurs sont nos enfants, quelle que soit leur couleur, leur croyance. Voilà. Et donc lui, il dit bien sûr, la société française est contre la drogue, moi aussi, mais elle est prête à entendre un discours intelligent qui fait de la prévention. Le hashish, c'est très dangereux pour les cerveaux avant 16 ans, le cerveau en formation, comme on disait.
Voilà. On va juste tirer la conclusion, ouais. Alors c'est complètement dingue. Ce n'est pas parce que la population assimile la consommation de hashish aux Arabes qu'il faut continuer dans cette impasse. La masse des consommateurs, ce sont nos enfants, quelle que soit leur couleur, leur croyance. Revenons à un rapport plus simple, acceptons la diversité de nos plaisirs et de nos perversions.
Bravo.
Allez, je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter. Voilà. N'oubliez pas, il faut venir le dire avec nous le 7 mai.
On en reparlera quand même.
Ouais, ouais, mais on le rappelle.
Voilà. Hein, samedi 7
notez
mai.
Notez ça, samedi 7 mai.
14h30, place Carnot, départ 15h. Voilà, pour la manif, pour la marche mondiale du cannabis, c'est organisé par le Cirque Lyon, mais maintenant, c'est chasseur de son. Jusqu'à très longtemps, très tard dans la nuit.
Allez, ciao à tous.
À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Cannabis Circus et Chasseur de son. C'est maintenant, à tout de suite.